La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
L'Empire carolingien. Charlemagne, par ses conquêtes, a refondé l'Empire romain d'Occident, avant que les successions ne brisent ce rêve d'un empire européen. Texte de Delphine Mercuzot, conservateur au département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France. Après le déclin de l'Occident romain, Clovis a forgé en Gaule la principauté la plus puissante d'Occident. Mais il n'est pas parvenu à la stabiliser. À chaque génération, le partage du royaume, reçu en héritage, provoque de sanglantes dissensions au sein de la famille royale. Au début du 8e siècle, les derniers souverains mérovingiens meurent trop jeunes pour imposer leur autorité, d'autant que les partages successoraux morcellent le royaume en principautés rivales. Leurs intendants, les maires du palais, exercent donc un pouvoir grandissant, même si la légitimité reste du côté des descendants de Clovis.
L'éléphant et Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Les Pipinides à la conquête du royaume. Une lignée aristocratique, dont de nombreux membres se nomment Pépin, parvient à rendre héréditaire la charge de maire du palais dans la principauté franque d'Austrasie. Pépin de Herstal réunit l'ensemble du royaume mérovingien sous l'autorité nominale de Thierry III, petit-fils de Dagobert, mais conserve la réalité du pouvoir. Suffisamment puissant pour désigner les trois remplaçants successifs de son roi, Pépin meurt en 714 sans héritier adulte. Signe du poids de la famille des Pipinides, l'aristocratie organise alors une régence pour l'office de maire du palais, comme s'il s'agissait du trône. L'épouse de Pépin, Plectrude, exerce cette régence pour le compte de son petit-fils Théodebald. Pour des raisons politiques et personnelles, elle fait déclarer bâtard et emprisonner Charles Martel, fils de son mari et d'une seconde épouse ou d'une concubine officielle. Mais la disparition de Pépin de Herstal a incité les autres provinces franques, Neustrie et Aquitaine, et les peuples frontaliers, les Frisons, les Saxons, à se soulever contre l'hégémonie austrasienne. Dans ce contexte, les Austrasiens se révoltent à leur tour contre leur régente.
Vous vous prenez au sérieux? Parfait. Vous écoutez Sirius Audio.
Charles Martel s'évade alors et s'impose à la tête des Austrasiens révoltés, obligeant Théodebald à renoncer au pouvoir et jetant sa belle-mère Plectrude au couvent. En 720, le maire du palais a repris le contrôle de l'Austrasie et de la Neustrie et peut s'attaquer aux peuples frontaliers pour protéger les territoires francs. Les victoires militaires servent à établir son autorité sur des provinces émancipées des rois mérovingiens, telles que la Bourgogne et l'Aquitaine. Incapable de protéger son duché des raids lancés depuis l'Espagne musulmane, le duc d'Aquitaine, Eudes, est forcé d'appeler à l'aide le maire du palais et de lui jurer fidélité. Après sa victoire sur les armées d'Al-Andalus à Poitiers, en 732, Charles Martel chasse également les Sarrasins de Provence. Ses ambitions guerrières s'appuient sur l'armée du maire, des guerriers d'élite qui lui ont juré fidélité et qu'il récompense en leur attribuant les terres appartenant à l'Église.
Le savoir s'écoute sur Sirius Audio.
Trop dépendant du maire du palais pour sa protection, le clergé ne peut protester ouvertement, d'autant que la confiscation de biens ecclésiastiques est établie depuis le règne de Dagobert. Protecteur du royaume contre les Sarrasins, Charles a cependant mauvaise réputation chez les intellectuels de l'époque qui lui reprochent cette politique de confiscation. L'Église est utilisée comme un moyen de gouvernement. Les abbayes et les évêchés tissent un réseau que les maires du palais, puis les souverains carolingiens, contrôlent. Selon ses impératifs politiques, Charles démet ou fait couronner les souverains. En 721, il tire un prince mérovingien de l'abbaye où il était relégué et le fait couronner sous le nom de Thierry IV. Ce roi est si insignifiant que sa mort en 737 ne change rien. Charles néglige de le remplacer, mais ne revendique pas la couronne. Charles Martel, bâtard, devenu quasi-roi, héros de la chrétienté, fondateur de la dynastie carolingienne, meurt en 741. Selon la tradition franque, ses trois fils se partagent le royaume. Pépin et Carloman s'unissent immédiatement pour neutraliser leur demi-frère Griffon. En mal de légitimité, les princes tirent un membre de la famille mérovingienne de son monastère et le font couronner sous le nom de Childéric III. Les deux fils de Charles Martel, qui ont conservé l'exercice du pouvoir, ne tardent cependant pas à s'affronter. En 747, l'aîné Carloman se retire dans un monastère. Y a-t-il été contraint par un contexte politique défavorable ou sa conversion est-elle sincère?
La culture générale, c'est Serious Audio et l'éléphant.
Son fils, Drogon, ne parvient pas à lutter contre Pépin. Seul aux commandes, le fils de Charles Martel a toute l'attitude pour déposer Childéric III en 751 et pour se faire élire roi des Francs. Si l'aristocratie franque considère Pépin comme un usurpateur, une série de victoires militaires et une habile politique de dons ont raison de ses réticences. La dynastie mérovingienne a vécu. Pépin, surnommé a posteriori le Bref, à cause de sa petite taille ou bien de son rang dans la fratrie, cadet ou minor, change la nature du pouvoir en lui donnant une dimension religieuse. Il est sacré le 25 décembre 751 à Soissons par les évêques. En 754, le pape Étienne II le sacre une seconde fois en compagnie de ses deux fils, Charles et Carloman, à Saint-Denis. Cette onction avec de l'huile sainte, normalement réservée aux prêtres, donne une dimension sacrée au roi. La monarchie française est née. Pendant plus de 1000 ans, les rois tireront leur légitimité de cette cérémonie.
Vous vous prenez au sérieux? Parfait. Vous écoutez Sirius Audio.
Charlemagne et la conquête du continent européen. En 768, à la mort de Pépin le Bref, le partage du royaume est, une fois de plus, source de conflits entre les héritiers. Pour étouffer les rivalités fraternelles, leur mère Bertrade ébauche une stratégie matrimoniale habile d'un point de vue diplomatique. Charles et Carloman épousent les filles de Didier, roi des Lombards. Mais seule la mort de Carloman, en 771, permet d'éviter la guerre civile. Charles répudie alors la princesse lombarde et accapare l'héritage de ses neveux avant d'attaquer son ancien beau-père. La longévité politique de Charles le Grand, Carolus Magnus ou Charlemagne, lui permet de conquérir le continent européen. Il annexe la Lombardie, la Bavière, la Saxe, la Frise. Les campagnes se succèdent rapidement. Selon la tradition mérovingienne, les hommes libres sont convoqués tous les ans au Champ de Mars pour former une armée, même si les opérations reposent désormais sur des cavaliers d'élite, liés au monarque par le serment. Au-delà des raids violents et des ravages du pays, Charlemagne établit son autorité en réclamant des otages qui sont élevés à la cour pour favoriser l'assimilation de leur peuple.
Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
Face à la résistance des Saxons, il exige la conversion au christianisme des populations conquises et fait construire les routes et les fortifications permettant de tenir le pays. Il n'hésite pas à massacrer les prisonniers, à déporter les populations et à inciter à l'installation de colons francs. Le paganisme est réprimé. En 782, 4500 personnes sont exécutées à Verden. Cette expansion met les Francs en contact avec les Danois au nord et les Avars, établis dans la plaine hongroise à l'est. À l'ouest, Charlemagne n'est pas parvenu à soumettre l'Espagne, la Bretagne, les îles britanniques. Pour protéger les territoires francs des incursions, il organise les frontières terrestres en marche. Une province récemment soumise est confiée à un homme de confiance, le comte de la Marche, qui défend le territoire et s'assure de l'assimilation et de la christianisation de sa population. L'influence franque s'étend progressivement. Les Avars se convertissent et acceptent la tutelle de Charlemagne. Pour protéger sa frontière méridionale, l'empereur effectue des incursions en Espagne musulmane. En 778, les Saxons profitent de l'une de ces expéditions pour se révolter. L'armée repasse donc précipitamment les Pyrénées pour retourner en Saxe. L'arrière-garde est attaquée à Roncevaux. L'adversaire demeure inconnu. Il peut s'agir de Gascons, de Basques ou de musulmans. L'escarmouche est restée célèbre parce que Roland, préfet de la Marche de Bretagne, y a trouvé la mort.
Vous écoutez Sirius Audio. C'est bien.
Charlemagne n'excelle pas seulement dans l'art de conquérir ou de protéger ses territoires. Il sait aussi manifester son autorité et administrer son royaume. En 790, il met un terme à la tradition mérovingienne de cour itinérante et construit un palais, digne de son rang, à Aix-la-Chapelle, à proximité de ses frontières à surveiller. Il a confié les royaumes d'Aquitaine et d'Italie à ses fils, Louis et Pépin, chargés de relayer son autorité dans les provinces excentrées. Reprenant la coutume instaurée par Charles Martel, il s'appuie aussi sur les évêques et des hommes de confiance, les comtes, qui lui ont juré fidélité. Ce réseau repose sur quelques 3000 personnes pour administrer 5 millions d'individus. Le souverain est ainsi lié au peuple par une série de serments. C'est l'origine de l'ordre féodal. Sous les Carolingiens, le titre de comte devient progressivement héréditaire. Depuis le centre administratif et culturel d'Aix-la-Chapelle, Charlemagne cherche également à unifier les provinces en y faisant appliquer les mêmes lois. Sa chancellerie met en forme des capitulaires, c'est-à-dire des codes législatifs, qui sont ensuite adoptés au Champ de Mars. Les fameux Missi Dominici, des envoyés du Seigneur omnipotent, composés d'un laïc et d'un clerc, sont chargés d'en contrôler l'application.
Retrouvez tous nos podcasts sur notre site serious.audio.
La renaissance de l'Empire romain. Le christianisme, dans sa version politique héritée de l'Empire romain, permet de rassembler des peuples disparates autour d'un souverain. La famille carolingienne et l'Église entretiennent des relations étroites. En 754, pour remercier Étienne II d'avoir facilité la déposition des Mérovingiens, Pépin le Bref a donné au pape des terres conquises sur les Lombards. En 774, au moment de s'emparer du royaume de Didier, roi des Lombards, Charlemagne a opportunément confirmé cette donation qui constitue l'embryon des États pontificaux. Le clergé, qui relaie la politique culturelle carolingienne, fournit également d'excellents administrateurs. Cette politique militaire, administrative et religieuse aboutit à la cérémonie de couronnement impérial organisée à Rome à la Noël 800. Charlemagne est désormais le chef politique et spirituel de l'Europe, aux grandes dames des Byzantins qui ne lui reconnaîtront jamais la dignité impériale. Pourtant, le royaume franc est désormais présenté comme l'héritier de la Rome antique. La construction administrative de l'État carolingien est légitimée par cet héritage glorieux. La restauration du glorieux passé antique repose également sur un mouvement littéraire et artistique que l'on qualifie souvent de Renaissance carolingienne, par analogie avec la Renaissance des 15e et 16e siècles. L'expression traduit l'ampleur du renouveau, elle est cependant trompeuse. Parler de Renaissance, c'est en effet sous-entendre que l'héritage antique avait disparu. Au contraire, la période mérovingienne, récemment réhabilitée, a joué un rôle capital dans la transmission de la culture antique, ce qui a permis aux intellectuels carolingiens de la redécouvrir. Par ailleurs, les clercs du IXe siècle n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que les humanistes du XVIe siècle. Leur travail repose sur une innovation technique considérable, la minuscule Caroline. Cette écriture d'une lisibilité inédite à l'origine de celle que nous utilisons permet une copie rapide, économe en parchemin, des textes. Les scriptoria du palais et des monastères peuvent donc diffuser un héritage antique christianisé à l'origine de la culture européenne.
S'il vous plaît, soyons sérieux. C'est Sirius Audio.
Les lettrés cherchent à recréer un socle commun pour faciliter les échanges. Leurs efforts se concentrent donc sur la langue latine, surtout la grammaire, et sur la correction des textes chrétiens. Moines copistes, lignes d'écriture, grammaire, monastère, Bible et liturgie, ce n'est pas ce qu'évoque communément le terme de « renaissance ». Les clercs carolingiens savent cependant innover. Ils sont les premiers à considérer la médecine comme une science. En effet, à la fin de l'Antiquité, cette pratique n'est pas inscrite dans les quatre arts libéraux dits « scientifiques », à savoir l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Les savants carolingiens l'ajoutent à la liste, ouvrant la voie à la redécouverte du corpus hippocratique. Louis le Pieux et ses fils. À la différence de l'Empire romain ou byzantin, l'Empire franc est cependant instable par nature. Selon la coutume, son fondateur prévoit en effet de le partager entre ses trois fils légitimes. Le royaume franc doit revenir à Charles le Jeune, l'Italie à Pépin, l'Aquitaine, la Bourgogne et la Provence à Louis. Mais la mort des deux aînés assombrit la fin du règne de Charlemagne. L'empereur se résigne à transmettre l'intégralité de son œuvre à Louis et le couronne lui-même pour éviter toute contestation. Élevé loin de la cour depuis l'âge de 3 ans et son accession au trône d'Aquitaine perçue trop intellectuelle, trop favorable au clergé, Louis n'est pas proche de son père. Il inaugure son règne par un coup de force à Aix-la-Chapelle. Il écarte brusquement les familiers de Charlemagne, dont ses frères, ses neveux et ses cousins, pour les remplacer par ses conseillers aquitains, dont Benoît d'Agnan. Au cours de cette prise de pouvoir, Louis a su se montrer magnanime. Il neutralise ses demi-frères illégitimes, Drogon et Hugues, en les confiant au clergé. Il leur garantit ainsi une excellente éducation et saura leur octroyer le pouvoir et l'influence garantissant leur fidélité.
L'éléphant et Sirius Audio.
Surnommé le Pieux, en raison de son soutien à l'Église ou le débonnaire, Louis n'est cependant pas affable. Lorsque son neveu Bernard, roi d'Italie, se révolte, il le fait aveugler et annexe son royaume. En bon intellectuel, il a compris que le christianisme était le ciment de l'Empire. Il soutient donc son influent conseiller Benoît d'Agnan qui entreprend la réforme des ordres monastiques. Louis le Pieux réfléchit également à la pérennité de l'Empire, envisageant de favoriser l'un de ses fils dans les partages. Chaque roi serait ainsi subordonné à l'aîné de la fratrie qui porterait le titre d'empereur. Malgré la prévoyance du souverain, ses projets de succession attisent le ressentiment de sa famille. Le conflit s'ouvre à partir de son remariage avec Judith de Bavière, dont tous critiquent l'influence. La naissance d'un fils, Charles, en 823, implique de revoir le partage pour lui attribuer une part. L'aîné de ses demi-frères, Lothaire, s'estime lésé et se révolte une première fois en 830. Une seconde révolte, en 832-833, aboutit à la déposition de Louis le Pieux par ses fils. Restauré par ses cadets Charles et Louis, l'empereur ne parvient pas à régler sa succession avant sa mort en 840. La principauté accordée au nouvel empereur Lothaire Ier, la Lotharingie, est enclavée entre celle de ses frères Louis, le germanique, dit Louis II, et Charles le Chauve. Cette situation ne peut qu'aboutir à une nouvelle guerre. En 841, Lothaire est écrasé par ses frères à la bataille de Fontenoy en Puisaye.
Retrouvez tous nos podcasts sur notre site serious.audio.
Aux origines de la France. Les mésententes entre les fils de Louis le Pieux révèlent des fractures culturelles entre les provinces de l'Empire. En 842, Louis le Germanique et Charles le Chauve s'allient contre leur frère, l'empereur Lothaire Ier, et se promettent officiellement assistance mutuelle. Ce sont les fameux serments de Strasbourg. Pour prendre les troupes à témoin, chaque roi jure dans la langue parlée dans l'armée de son demi-frère. Louis prononce les termes de la paix en proto-roman, Charles en tudesque. Les serments de Strasbourg sont la première attestation écrite du français, que l'on peut voir à la Bibliothèque nationale de France, signe qu'un royaume cohérent est à l'ébauche dans la périphérie occidentale de l'Empire. Dans cette principauté accordée à Charles le Chauve, la dynastie carolingienne se maintiendra encore un siècle, alors qu'une nouvelle lignée aristocratique gravit les échelons du pouvoir, les Robertiens. En 843, à Verdun, les trois fils de Louis le Pieux se partagent l'Empire. L'année suivante, l'archevêque de Metz, Drogon, demi-frère de Louis le Pieux, tente une médiation et parvient à réunir ses neveux à la conférence de Thionville. En 855, à la mort de Lothaire, Charles le Chauve parvient à être couronné empereur. En 881, une dernière tentative de réunification est faite lors du couronnement impérial de Charles le Gros, fils de Louis II le Germanique. Mais les rivalités fraternelles et familiales ont eu raison de l'unité de l'Europe carolingienne. Charles ne parvient pas à exercer de souveraineté sur la Francie occidentale, qui ne connaîtra plus d'empereur carolingien. La chute de la dynastie s'explique davantage par son incapacité à lutter contre une deuxième vague d'envahisseurs que par l'effondrement de l'Empire. L'arrivée et l'installation de peuples germaniques au 5e et 6e siècle avaient été progressives. Le scénario change à partir du 8e siècle. Les raids des Vikings et des Arabes constituent des expéditions rapides et très violentes. Charles Martel avait tiré une partie de son prestige et de son emprise territoriale de sa victoire contre les Arabes en Aquitaine et en Provence. Confronté au pillage de nouveaux envahisseurs sur les côtes occidentales, Louis le Pieux et ses fils peinent au contraire à défendre les populations. Originaires de Scandinavie, des marins pillards, les Vikings ou les Normands, font irruption vers l'an 800, s'installent à Noirmoutier en 821, prennent Nantes en 843. À partir de 840, ils remontent la vallée de la Seine. Un homme s'illustre contre ses envahisseurs, Robert le Fort, auquel Charles le Chauve accorde le comté d'Anjou, la prestigieuse abbaye Saint-Martin de Tours et surtout la défense de la région entre Seine et Loire, devenue la Marche de Neustrie.
L'éléphant est Serious Audio ? Vous allez voir ce que vous allez entendre.
Robert meurt après avoir vaincu les Normands de la Seine en 866. Ses deux fils, Eudes, comte de Paris, et Robert Ier, se font élire rois, chacun à leur tour, par l'aristocratie. S'ouvre alors une période d'alternance entre les Carolingiens et les Robertiens. Cette période d'affaiblissement du pouvoir royal correspond à une perte d'emprise territoriale. Les grands du royaume cessent d'agir en fonctionnaires et se constituent une assise territoriale. Le royaume cohérent accordé à Charles le Chauve devient un ensemble de principautés autonomes liées par une fidélité relative au souverain, robertien ou carolingien. L'arrière-petit-fils de Robert le Fort, Hugues Capet, est sacré en 987. S'il supplante définitivement les Carolingiens, il n'exerce plus de souveraineté directe. Il n'est que le premier parmi des égaux, primus inter pares. Pour garantir la transmission héréditaire du royaume, Hugues Capet associe son fils à la royauté de son vivant. Ses héritiers refuseront de partager le royaume et le transmettront à leur fils aîné, affirmant progressivement le principe de primogéniture masculine, garant de stabilité institutionnelle. La lignée capétienne règnera alors pendant 8 siècles.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.